France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Contrôle continu, éclatement des classes, accès aux nouvelles spécialités, suppression des séries. Le bac fait sa révolution et ceux qui expérimentent ce nouveau bac ont de quoi se poser. Premier bilan en ces vacances de la Toussaint, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Les changements bousculent les habitudes, font des inquiets mais aussi des heureux. Les changements génèrent toujours beaucoup de questions. Alors comment ça va se passer ce contrôle continu? Les fameuses épreuves du bac techniquement commencent seulement dans 3 mois. Les fameux E3C, épreuves communes de contrôle continu. On va plancher d'accord, mais plonger sur quoi et comment? Épreuve par lycée, les sujets qui va les faire, ils seront corrigés comment? Voilà parmi les questions qu'on voit déjà arriver au 01 45 24 7000. Est-ce que c'est vrai que le programme de la spécialité maths est beaucoup plus difficile que précédemment, beaucoup trop difficile, même beaucoup auraient déjà abandonné? Qu'est-ce qu'il est plus finaud d'abandonner? Tiens, puisqu'il faudra laisser une des trois spécialisées à la fin de l'année, que dit Parcoursup là-dessus? Pour l'instant, pas grand-chose. Bref, le Big Banque du bac, premier point d'étape, c'est tout de suite dans le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et Léonard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On t'écoute Léonard, on peut se tutoyer. Allô? Puisque tu es en première, donc c'est toi le premier concerné, on t'écoute.
Oui, c'est ça, donc voilà, moi j'ai en troisième, j'ai choisi mon lycée parce qu'il avait une option sciences de l'ingénieur qui m'intéressait beaucoup. Donc là, j'y suis cette année et je me rends compte que pour faire éventuellement une école d'ingénieur après le bac, je vais peut-être être obligé d'abandonner sciences de l'ingénieur justement l'année prochaine parce que faire une école d'ingénieur sans maths et physique, ça paraît quand même assez compliqué. Et pour le moment, le choix, on n'a pas du tout d'éléments sur comment s'orienter. Ça va vraiment être juste ce que les grandes écoles vont prendre. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on le sache avant avril, parce que c'est en avril qu'on doit supprimer une de nos spécialités.
Et merci beaucoup, Léonard, pour cette question, parce qu'elle résume beaucoup d'autres questions que nous avons là au 01 45 24 7000 pour savoir effectivement comment il va falloir faire les choix pour répondre à vos questions ce soir, discuter ensemble jusqu'à 20h. Sophie Vénétité est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES FSU, vous êtes professeur de SES. Au lycée. Et bonsoir Edouard Geffray.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'enseignement scolaire. Question pour l'une pour l'autre. D'abord, vous, Véronique Vénétité, du côté du SNES, est-ce que ça fait partie des questions qui reviennent de manière très récurrente? Les étudiants, les lycéens savent déjà qu'il faudra abandonner une option en route, une spécialité, parce que je sais qu'il ne faut pas dire option. Est-ce que c'est des préoccupations qui reviennent extrêmement souvent là-dessus? Qu'est-ce que j'abandonne? Quel chance je mets de mon côté en gardant quoi?
Ça fait effectivement partie des préoccupations qu'on entend de la part des élèves, mais aussi de la part des professeurs, parce qu'on voit les élèves tous les jours et forcément ils nous posent des questions. Et pour l'instant, force est de constater qu'on est bien en peine de pouvoir leur répondre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Les conseillers, les psychologues de l'éducation nationale ne savent pas quoi dire. L'échéance arrive très vite, puisque c'est au conseil de classe du deuxième trimestre qu'il va falloir se décider, mais ça veut dire toute une discussion en amont, des choses qui vont commencer dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de conseiller les élèves. Ça fait partie de toute cette impréparation qui caractérise quand même cette rentrée et cette difficulté à travailler avec les élèves.
Comment vous faites si vous devez rassurer Léonard, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez au moins lui dire pour essayer de le rassurer un peu?
Malheureusement, en l'état actuel des choses, je ne suis pas en mesure de pouvoir le rassurer. Nous, on aimerait avoir plus d'informations, notamment dans la perspective de Parcoursup, parce que ces questions, les parents nous les posent.
Mais
dans
oui.
les réunions parents-professeurs de début d'année, les parents nous posaient des questions sur le bac et sur Parcoursup.
Édouard Geffray, il y en a d'autres, des questions comme ça. Il y a notamment ceux qui ont choisi de faire médecine et qui ont pris en général maths, physique et SVT. Mais qu'est-ce qu'on décide d'abandonner, effectivement? Qu'est-ce qui est le plus malin? Et ce qui est très compliqué pour les élèves aujourd'hui, évidemment, c'est qu'est-ce qui va surtout intéresser Parcoursup? Au fond, c'est pas qu'est-ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans les attendus. Comment on fait pour rassurer Léonard?
Alors justement, moi je voudrais répondre à Léonard et à tous ceux qui se posent ce genre de questions. Parce qu'on est d'abord là pour eux avant d'être là pour se poser d'autres types de questions. Léonard, il a pu choisir les spécialités qui l'intéressaient. Et ça, c'est nouveau. Il n'aurait pas pu avant. Dans Parcoursup, le principe, c'est que les universités ou les écoles ne vont pas sélectionner uniquement sur la base des spécialités, mais sur la base d'un parcours général.
Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on en sait?
Eh ben, on le sait qu'elle le pratique d'ores et déjà aujourd'hui, et que précisément, l'intérêt du système Parcoursup, c'est de pouvoir recruter des profils qui sont des profils diversifiés, qui peuvent faire valoir autre chose. Léonard, c'est quelqu'un qui est manifestement, un, hyper motivé par ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, il va faire un choix de spécialité, j'ai l'air comme tout le monde, donc il sera à égalité, il choisira ce qui finalement lui correspond le mieux, je peux vous garantir que ça ne l'empêchera pas d'entrer en école d'ingénieur l'année prochaine.
Oui, mais ce qui l'intéresse le mieux, bien sûr, vous l'avez dit, il y a une série d'options, mais typiquement celle qui est le plus proche de ce qu'il veut faire, donc sciences de l'ingénierie, ben celle-là, la question qui se pose, c'est attendez, si j'abandonne les maths et la physique, quelle option là pour le coup, je m'enlève intégralement, parce qu'après tout, il est en première, il peut avoir aussi un large choix d'école d'ingénieur ou décider peut-être d'aller dans une direction un peu différente. Donc au fond, le sentiment que ça laisse, c'est que tout le monde a été vers les grands classiques. Et que le reste est, pour le coup, une option quand ça doit être une spécialité.
Alors, tout le monde n'a pas été vers les grands classiques. Je rappelle quand même qu'il y a quasiment un élève
66%
sur deux.
66% vont vers les maths.
Oui, mais il y a un élève sur deux qui a choisi une, ce qu'on appelle une triplette, c'est-à-dire trois spécialités qui ne correspondaient pas aux anciennes séries. Donc c'est ça, moi, que je retiens. Mmh. C'est qu'il y a un élève sur deux qui, enfin, j'allais dire, peut faire ce dont il a envie et pas ce qu'on lui demande de faire par convention sociale. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que les entités du supérieur, université ou école, connaissent désormais les règles du jeu du baccalauréat et du lycée. Ils vont évidemment en tenir compte pour garder la souplesse de recrutement qu'elles ont eue, c'est-à-dire pouvoir recruter des gens qui n'auront pas tout fait, et c'est normal. Et il est probable d'ailleurs qu'elles ajusteront elles-mêmes leur scolarité pour permettre aux gens de développer telle ou telle compétence qu'ils n'auraient pas eu le temps de développer au lycée.
Isabelle, pardon, j'ai mangé votre question un petit peu sur médecine, mais allez-y, je vous en prie, posez-la à votre tour.
Oui, bonsoir. Donc moi, je suis la maman d'un garçon qui est en première actuellement et qui a comme anciennement une spécialité les maths, la physique, la SVT et qui aurait comme projet éventuel, je dis bien, c'est pas une certitude, de faire médecine. Il aime les trois matières, il a de bons résultats dans les trois matières et pour lui, actuellement, il ne sait absolument pas ce qu'il va laisser tomber au mois d'avril. Et c'est vrai que c'est un questionnement et c'est perturbant.
Perturbant, Sophie Vénétité, pour elle comme pour d'autres, visiblement.
Comme pour beaucoup d'élèves, comme pour la quasi-totalité des élèves qui sont aujourd'hui dans l'incertitude, ne sachant pas quelles spécialités ils vont devoir abandonner. Et on voit bien une des caractéristiques de cette réforme qui est finalement de se spécialiser par l'abandon. C'est quand même une forme de paradoxe que de se spécialiser en abandonnant quelque chose. Par ailleurs, vous avez dit que la moitié des élèves étaient sortis des fameuses filières, on n'avait pas recréé les filières. Il faut quand même regarder finement les statistiques d'ailleurs qui ont été dévoilées la semaine dernière, sur les 10 premières triplettes les plus choisies, ce sont des triplettes qui reconstituent les filières. Et par ailleurs, quand on regarde la dixième, c'est maths, physique, chimie, SES, si bien que en terminale, si on abandonne l'une ou l'autre, finalement, on reconstitue soit la filière S, soit la filière ES. Donc, il faut aussi faire attention à la façon dont on analyse les choses. Les élèves ont pu avoir le choix, mais pas tout le temps. Moi, je rappelle quand même qu'il y a des élèves qui n'ont pas pu avoir la spécialité
parce qu'elle n'existait pas dans le lycée.
Les groupes étaient complets et qu'il n'y avait pas de possibilité d'ouvrir un nouveau groupe. Donc aujourd'hui, la rentrée ne s'est pas si bien passée que ça. Et là, maintenant, on est confronté à d'autres questions auxquelles, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre. Vous avez parlé des grandes écoles, vous avez parlé de Parcoursup. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse à donner à nos élèves.
Deux choses, Monsieur Geffray. La première, effectivement, vous pourrez nous dire s'il y en a qui ont dû renoncer à des spécialités parce qu'ils ne les avaient pas, soit à proximité, il n'y avait pas moyen de mutualiser, etc. Mais est-ce que, de toute façon, cette question qui est récurrente sur la crainte de la spécialité à abandonner, ça fait partie des choses qui sont discutées, par exemple, en comité de suivi, puisque ça existe. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ces idées sont fermées ou qu'on peut garder sa troisième spécialité finalement pour entrer en terminale?
Alors, plusieurs choses, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites et qui sont dites avec un aplomb qui quand même mérite d'être un tout petit peu corrigé. Si les 10 meilleures triplettes, entre guillemets, enfin les 10 triplettes les plus choisies correspondent à trois filières, il faudra juste comment on explique comment 10 égale 3. Moi, je sais pas faire. Et pourtant, j'ai fait une terminale S spécialité maths. Donc, à partir de là, il faut répondre d'abord à la question qui nous a été posée. Cette dame, cette maman qui s'inquiète de savoir ce que va prendre son fils peut prendre physique, chimie ou SVT. Très honnêtement, ça l'empêchera pas de faire médecine. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, évidemment, il y a un travail dans le cadre du comité de suivi. Oui, évidemment, il y a un travail avec le supérieur, de manière à ce que le supérieur, justement, soit clair dans la réponse et dans les offres qu'il apporte à nos étudiants. En revanche, on est bien sur un schéma qui fait 3 puis 2. C'est pas une spécialisation par abandon, c'est une spécialisation par choix positif. C'est-à-dire, je prends largement au début, je regarde ce qui m'intéresse le plus, ce qui me correspond le mieux, et je le poursuis en terminale.
Isabelle est au 01 45 24 7000. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Isabelle.
Alors, je voulais réagir en tant que parent. Je voulais dire que ma fille, elle est en première et c'est la deuxième réforme qu'elle a subie depuis. Elle a subi la réforme du collège et là, elle subit la réforme du lycée, donc ça fait déjà beaucoup. Je voulais dire que ma fille a été énormément stressée à la rentrée. Les professeurs n'avaient pas de réponse à leur apporter. Il y avait une énorme désorganisation. Ce que je peux dire, c'est que ce que le monsieur a dit, je sais pas qui c'est, bonjour monsieur, je suis désolée, bonjour. Mais ma fille n'a pas pu choisir les spécialités qu'elle voulait.
Directeur général de l'enseignement scolaire, donc allez-y, voilà. Vous pouvez y aller,
c'est le monsieur qui sait. Quand ils auront promis qu'ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient, elle a fait le choix de philo, maths et sciences de l'ingénieur. Et puis après, on lui a dit que c'était pas la majorité qui avait choisi ça, c'est ça. Et voilà. Donc savoir qu'elle a choisi maths aussi, ma fille, parce que beaucoup de gens ont choisi maths parce qu'il y a plus de maths sinon dans le circuit. Mmh. Et alors là, c'est une aberration, voilà. Et dernière chose, ce que je voulais dire, c'est qu'on aimerait en savoir plus pour les examens, parce qu'on sait toujours pas comment ça se passe pour les examens, s'ils vont se faire, s'ils sont prêts. Voilà. Et si tous les élèves vont avoir enfin leur livre. Voilà, on se pose beaucoup de questions, on est un peu en colère parce que déjà que c'est... moi j'ai l'impression qu'on recrée du stress pour les habitués à l'entreprise. On crée pas quelque chose qui va les aider à étudier. Voilà.
J'ai une question pour vous Isabelle, puisque votre fille a fait... donc vous avez dit philo, maths et sciences de l'ingénieur.
Ah bah du coup elle fait pas philo, hein, elle a pas pu.
Ah oui d'accord, elle a enlevé philo, ouais d'accord. Okay. Ah parce que j'allais dire ça ressemble à une triplette d'une jeune fille qui pour l'instant sait pas très bien où elle veut aller et qui du coup... ouvre très très large ses options pour après en fait.
Mais du coup elle a pas eu le choix, elle fait sciences de l'ingénieur, maths une mauvaise et sciences physiques.
D'accord. Donc finalement beaucoup plus scientifique et
voilà. En elle a dû faire ce choix.
Terme là beaucoup plus classique. Merci beaucoup Isabelle pour votre question. Le stress au démarrage de cette génération qui essuie les plâtres. Édouard Geffray, c'est une chose. Et puis pour le coup il y aura beaucoup de questions également. Isabelle l'a effleuré sur l'organisation des examens. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus? Ça commence tout de suite, c'est-à-dire entre janvier et mars, si
alors,
je comprends bien.
Donc, deux éléments de réponse. Sur le premier point, simplement, alors, ça n'interdit pas les situations individuelles qui peuvent être compliquées et que je comprends très bien. Et la première chose que je comprends, c'est évidemment le cas de cette jeune fille. Mais globalement, on avait avant 84% des lycées qui proposaient les trois filières. On a aujourd'hui 92% des lycées qui proposent au moins 7 spécialités, et donc ou plus. Mmh. Donc, de manière générale, on a plutôt dilaté l'offre de formation qu'on a restreinte. Et ça, il faut quand même le garder à l'esprit.
Et il y a beaucoup de mutualisation. Comment ça se passe,
notamment dans les territoires ruraux, si vous me permettez, point qui est important. Ouais. Deuxième point, sur l'organisation des épreuves. Donc, les épreuves, ce qu'on appelle communes de contrôle continu, ce sont des épreuves qui auront lieu sur des sujets qui sont des sujets nationaux, donc qui sont travailler collégialement à un niveau national, pour préserver, j'allais dire, le principe d'égalité, qui seront passés en revanche dans les établissements. Et justement, c'est un contrôle continu, c'est-à-dire dans le cadre de la vie normale, de la scolarité normale, pour banaliser au maximum l'épreuve, et qui seront ensuite corrigés de manière anonyme, et donc de manière à ce qu'on n'ait pas, entre guillemets, comme on a pu entendre ici ou là, le bac grâce à tel professeur ou grâce à tel établissement. Voilà.
Pas de bac local, c'est ce qu'on a entendu dans les critiques. Mais
exactement.
Je vous vois, Sophie Vénétite, et on va laisser finir M. Geffray, je vous vois, allez-y.
Donc ça commencera fin janvier, enfin les sujets d'abord seront accessibles aux équipes pédagogiques dès le 1er décembre. Les épreuves commenceront fin janvier, elles se dérouleront entre fin janvier et début mars.
Et vous dites, pour aller de correction, est-ce qu'on envoie les copies être corrigées ailleurs ou est-ce qu'elles sont, même si vous avez dit elles sont anonymes, etc., ou est-ce qu'elles sont quand même corrigées dans l'établissement?
Alors les copies, la correction des copies sera entièrement dématérialisée, ce qui permet donc une mutualisation, une répartition des copies entre des professeurs différents. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sera jamais corrigé par son professeur. Ensuite, on peut corriger soit par un professeur d'établissement, soit par un professeur d'un autre établissement, mais on ne sera jamais corrigé par son professeur.
Mais puisque les copies sont anonymes, comment est-ce qu'on est vraiment sûr, puisque tout le monde passe les mêmes épreuves au même moment, qu'on n'est pas corrigé par son prof, on est sûr qu'on pourra échapper à cette coïncidence?
Oui, parce que vous avez un système en fait qui permet de, pardonnez-moi l'expression, mais de taguer la copie, c'est-à-dire de marquer un système anonyme et qui permet de savoir grosso modo que tel tas de copies ne va pas avec tel professeur.
Allez, Sophie Vinetti, je vous ai vu bouillir sur votre chaise, je vous en prie, allez-y.
Bouillir peut-être pas, mais réagir à ce qui a été dit. Il y a effectivement des précisions qui ont été apportées. Néanmoins, le bac tel qu'il se profile, les épreuves qui vont arriver dans deux mois et demi, restent marquées par une constante, c'est le renvoi au local de l'organisation. Ça veut dire que il y a quand même une rupture d'égalité entre les candidats. C'est ce qui fonde, ou c'est ce qui fondée. Est-ce que maintenant il faut en parler au passé, le baccalauréat, puisque des élèves d'une classe de première d'un même lycée n'auront pas forcément tous les mêmes sujets. Deux lycées à 5 km de distance, les élèves de première n'auront pas forcément les mêmes sujets, ils ne vont pas passer forcément les mêmes jours. Donc on a là quand même une rupture d'égalité importante. Vous nous parlez de la banque nationale de sujets. Mmh. Moi, je veux bien qu'il y ait le mot national dedans. Il n'empêche que les sujets vont être choisis localement, que des élèves ne composeront pas sur les mêmes questions et que par ailleurs, toute l'organisation est aussi renvoyée au local. Donc ça veut dire qu'on a des élèves qui vont passer dans certaines configurations, donc peut-être dans une configuration examen avec deux surveillants dans la salle, avec une vingtaine d'élèves, la possibilité de faire les choses bien comme il faut, et donc qui vont faire comme si c'était un contrôle normal. Donc là, on est quand même sur une rupture d'égalité très importante. Et dernière chose, vous parliez de la correction et du fait que l'élève n'allait pas être corrigé par son professeur, certes, mais aujourd'hui, quand nous on écoute nos collègues dans les académies, on voit qu'il y a quand même des choses extrêmement différentes qui se disent. Parfois, des collègues qui nous disent bah, « nous, on sait qu'on va se répartir les copies dans l'établissement, d'autres, ça va être sur un bassin, d'autres, on ne sait pas ». Donc, au-delà de la question de la rupture d'égalité qui marque quand même ce bac, il faut bien entendre qu'on est face à une rupture d'égalité, il y a encore un grand nombre de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et donc, on maintient qu'il y a une forme d'impréparation.
C'est un point intéressant qui est soulevé, notamment sur la manière dont l'examen se fait. C'est-à-dire, effectivement, quand on est assis dans une salle de classe et qu'on le fait comme un contrôle, on a un certain niveau de stress. Quand on met les gamins dans une autre situation, il y a un autre niveau de stress. Est-ce que c'est pris en compte, ça? Est-ce que ça existe? Évidemment. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas quelque chose qui dit voilà comment il va falloir organiser? Et du coup, j'imagine pas d'ailleurs, ma sous-question, c'est est-ce que chaque lycée a les moyens d'organiser ce genre d'épreuve à intervalles réguliers?
Alors, écoutez, on peut pas quand même laisser dire, pardonnez-moi, mais tout et n'importe quoi. Il y a un cadrage très clair qui est sorti au niveau national et qui explique comment les choses se passent. Et qui dit très précisément qu'on passe ça en mode, si je puis dire, normal, dans le cadre de la scolarité normale.
C'est ce qu'on appelle
un contrôle continu.
En mode classe.
Donc c'est pas un en contrôle mode examen. Continu. Donc, on peut être pour ou contre le contrôle continu, mais ça, c'est un débat qui a eu l'année dernière. Maintenant, l'objectif et notre responsabilité collective, c'est de faire en sorte que nos élèves puissent passer les épreuves dans les meilleures conditions. Donc, ils vont passer des épreuves de contrôle continu. Et effectivement, le contrôle continu, bah, par définition, c'est continu, c'est dans l'établissement. Je rappelle qu'avant, on jouait tout son bac, grosso modo, ou 90% du bac, sur une semaine. Avec tout le stress que comporte le caractère très solennel, qu'il fallait aller une demi-heure de voiture, si je prends mon cas, hein, je m'en souviens encore, il fallait une demi-heure de voiture, il valait mieux pas rater son coup parce que, comme j'habitais en banlieue, c'était un peu compliqué en termes de transport, etc., etc. Bon. Aujourd'hui, on dit, bah non, c'est dans le cadre de la scolarité. Il y a une bonne partie qui se passe dans le cadre de la scolarité normale. Et en plus, par rapport, avec une logique de progression pédagogique. Je vous prends un exemple. J'aimerais savoir qui parmi vos auditeurs a demandé ses copies de bac. Moi, en tout cas, j'ai pas demandé. Peut-être vous
non plus.
Non, simplement parce que le bac servait, passer le bac servait à avoir le bac. Ouais. Ça servait pas à progresser. Ouais. Avec le contrôle continu, vous récupérez votre copie et vous progressez pour le coup d'après. Et
vous avez donc
tout ça, c'est un élément positif.
Un droit de regard sur votre correction. Je voudrais qu'on écoute Nina. Absolument. On est sur les mêmes sujets. Bonsoir, Nina.
Bonsoir.
Allez-y, vas-y, on t'écoute. Nina qui est en classe de première.
Moi, je suis en première et je me posais la question à quoi ça sert les contrôles trimestriels. Parce qu'on nous en a parlé, et aussi je voulais dire que c'était que 10% le contrôle continu.
Alors c'est un peu plus que 10% d'après ce que j'ai cru comprendre, Nina. Pour moi c'est au moins 40.
C'est 40.
C'est 40. Oui. Et alors, pardon Nina, mais qui vous a expliqué, vous, en première, comment ça allait se passer désormais?
C'est nos professeurs.
D'accord. Et qui vous ont dit que ça compterait pour 10%?
Ouais, mais on nous a donné une brochure où il y avait marqué les pourcentages.
D'accord.
C'est ça.
Et au niveau des spécialités, toi par exemple, t'en es où?
Moi, j'ai pris histoire géopolitique, j'ai pris audiovisuel et HLP.
HLP, c'est quoi?
Et philosophie, humanité et littérature.
D'accord, ok, d'accord. Et super. Est-ce que du coup, puisque ça a été la question de beaucoup des jeunes gens comme toi qu'on a eu au standard jusque-là, celle qu'il faudra lâcher parce que les deux autres sont meilleurs pour toi, tu sais déjà laquelle ce sera ou pas?
Que les trois me plaisent beaucoup et du coup je ne sais pas du tout laquelle enlever.
On va pas stresser Nina qui prendra le temps pour réfléchir. Merci beaucoup. Il reste du temps. Merci beaucoup pour cette question. Mais ce que j'entends dans ce qu'elle dit, Nina, c'est que elle sait pas très bien comment ça va fonctionner cette histoire de contrôle continu. Elle pense que c'est 10% alors que en effet c'est 40% de la note finale. Donc c'est beaucoup plus important que ça. Il y a peut-être encore un vrai travail d'explication à faire auprès de ces lycéens là. Peut-être pour les déstresser aussi d'ailleurs. Hein. Allez-y Sophie Vinetti, je vous donnerai la parole évidemment.
Oui,
après.
Effectivement sur l'information des élèves. On a été confronté à la difficulté sur laquelle nous avons commencé l'année en ayant bien peu d'informations.
Mais ne dis pas qu'il y a une brochure qui dit 10% comme celle qui a vu.
Non. Voilà, c'est pas de cette brochure-là dont il est question. Mais là aussi, quand on se met, quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, on a commencé l'année de terminale avec nos élèves, on était en mesure de dire, dans 9 mois, il se passe ça, vous allez passer telle épreuve. Mm-hmm. Dans 2 semaines, on commence la méthode, par exemple, de l'étude de documents. Dans 1 mois, mm-hmm. on continue la méthode. Là, on est au mois de novembre, on est quand même encore dans le flou le plus total. On a 1 ou 2 sujets 0, c'est-à-dire des sujets types par discipline, mais on n'a pas les corrigés. C'est-à-dire, mm-hmm. comment est-ce que je vais travailler la méthode si je ne sais même pas comment corriger le sujet zéro. Donc là, il y a encore des questions qui se posent. Et par ailleurs, vous avez avancé l'argument du stress qui diminue. Moi, je voudrais quand même rappeler que certes, le bachotage se faisait peut-être sur 1 mois ou sur la session du mois de juin. Désormais, le bachotage se fait sur 2 ans. Le baccalauréat est devenu une course à l'évaluation qui dure 2 ans. Donc oui, c'est vrai, le bachotage entre Roland-Garros et la Coupe du Monde quand elle a lieu, c'est fini. Mais c'est du bachotage sur 2 ans. Et c'est ça qui stresse les élèves et qui les stresse davantage que les années précédentes. Et nous, on a quand même nos élèves, qu'on voit tous les jours. Là, on a fini la séquence, on est arrivé aux vacances de Toussaint avec des élèves et des collègues qui sont extrêmement fatigués et stressés.
On va faire d'une pierre deux coups. On va écouter Cléo d'abord, qui attend depuis longtemps. Bonsoir Cléo.
Bonsoir.
Allez-y.
Merci de prendre mon appel. Donc en effet, moi je suis enseignante et en même temps responsable des premières dans un lycée de Lyon et je voulais en effet un petit peu partager mon ressenti concernant cette première période. Juste tout d'abord, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Nina où elle dit que 10% de ses notes sont comptent pour le bac. Pour moi, elle a raison dans le sens où 10% du contrôle continu qui ne concerne pas les E3C mais 10% de leurs notes obtenues au DS sont comptabilisés. Et c'est bien ce qu'on trouve dans les brochures. Donc voilà,
d'accord.
C'est pas 40%.
D'accord.
Et je préfère, c'est ce qu'on dit aux élèves, il y a 10% des notes qu'ils reçoivent tous les jours sur des DS, sur des oraux, etc. Et aussi 30% des E3C.
D'accord, mais du coup, 10%. C'était pas clair dans l'esprit de Nina, si je puis me permettre, parce qu'effectivement, ce qu'elle avait compris, elle, c'était que c'était 10% finalement de tous les contrôles tous les jours, en oubliant qu'il y avait en plus... la grosse épreuve régulièrement.
Mais parce que c'est difficile pour les élèves de distinguer, je passe très vite là-dessus, en fait contrôle continu et épreuve de tronc commun. Donc nous, en tant qu'enseignants, on utilise bien contrôle continu pour les notes qu'ils ont tous les jours, toutes les semaines, et épreuve de tronc commun.
D'accord, donc,
Voilà, moi simplement, c'était pour exprimer un petit peu mon ressenti. On a des élèves très très fatigués à la fin de cette première période à comparer au bac précédent avec beaucoup de mal à gérer les classes parce que finalement ils ont que 16 heures de tronc commun et après ils sont dispatchés dans de multiples classes, dans des enseignements. Donc il n'y a plus cette ambiance de classe, il n'y a plus cette entraide entre les élèves. On a des élèves très très stressés et pressés aussi par les enseignants parce qu'on a des programmes qui sont très importants, particulièrement en enseignement scientifique.
Mais on y viendra, on a un prof de maths qui nous attend là depuis un moment au standard.
Concernant les conseils de classe, moi j'organise les conseils de classe dans l'établissement, on a 38 profs par classe. Comment faire un conseil de classe aujourd'hui? Est-ce que on va avoir une directive de la part du ministère pour gérer ça, ou est-ce qu'au contraire ça va être les établissements qui vont gérer ça? Nous, on se pose la question de prendre seulement les collègues de tronc commun, mais quid des faits? Concernant les épreuves communes, c'est pareil, on nous parle de sujets à choisir dans une banque de données, oui, mais ça veut dire que les collègues ils doivent travailler aussi sur une progression commune, ça veut dire qu'on a peu d'accompagnement personnalisé auprès des élèves, et sur la correction, nous on attend toujours, on n'a pas de nouvelles, on a par exemple qu'un prof d'SES dans notre établissement, qu'est-ce qu'il en est? Alors ça veut dire que ces copies à cette personne-là sont forcément externalisées, qu'en est-il du grand oral?
Attendez, une après l'autre Cléo, parce que si vous posez 28 questions, je crois que ça va être compliqué, mais merci, pardon de vous avoir interrompu, mais il y a beaucoup de choses en route sur lesquelles je voudrais qu'on s'arrête. D'abord, dans l'ordre d'apparition, si je puis dire, la fin de l'ambiance de classe, Sophie Benetit, et donc pour l'entraide, etc., vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, monsieur Geffray, mais c'est une remarque qu'on entend beaucoup.
C'est une remarque qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose qui nous a frappé dès les premières semaines.
Et en même temps, de vous à moi, il est peut-être temps de s'habituer, non? Parce que première, terminale, et pouf, c'est fini.
Mais de s'y habituer en douceur. Là, on a des élèves de première, c'est-à-dire des élèves qui étaient en seconde encore il y a quelques mois, qui du jour au lendemain perdent les repères du groupe classe.
Enfin, c'est-à-dire ils ont le tronc commun et après ils se baladent
pendant les spécialités. D'organisation. Il faut quand même pas oublier l'intérêt qu'il y a d'être en groupe, en termes de création de solidarité, en termes d'entraide, en termes de camaraderie aussi qui se crée. Nous, on a des élèves qui nous disent, mais je suis complètement perdu au moment des élections des délégués de classe, pour vous donner un exemple, des élèves qui nous ont dit « mais moi je ne connais pas ces élèves ».
Alors voilà.
Donc ça, c'est quand même quelque chose que les élèves ont perdu.
Il y a, Édouard Geffray, quelque chose dans la question de Cléo qui concernait effectivement les conseils de classe. Comment on fait quand on est le prof principal, quand on fond, effectivement, on a ses élèves de tronc commun, mais après, il y a tout ce qui gravit, tous les satellites autour. Et au fond, la même question tient pour les lycéens qui sont délégués de classe.
Permettez d'abord que je réponde à Nina, parce qu'on ne lui a pas répondu à Nina. Et donc, pardon, hein, c'est un peu ma marotte, mais j'essaie de répondre aux gens. La note globale du bac se découpe en 60% pour ce qu'on appelle les épreuves terminales, 30% pour ce que vous appelez tout à l'heure les E3C, les épreuves communes du contrôle continu, et 10% sur la base, en gros, du bulletin scolaire. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, effectivement, sur cette histoire de classe. Alors, c'est un sujet qui est bien vu. Hein. Enfin, on est tous d'accord pour dire que ça interroge le groupe classe et ça interroge les conseils de classe. Je rappelle simplement que le tronc commun, c'est quand même la majorité des heures. C'est-à-dire, tout le monde parle des spécialités tout le temps, mais enfin, il y a juste un tronc commun qui représente la majorité des heures qu'on suit, quand même, et qu'il ne faut quand même pas complètement passer par pertes et profits.
Mais c'est ça. Donc, il y a le tronc commun et puis il y a les épreuves satellites autour.
Voilà, deuxième chose. Troisième élément, c'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire que dans les classes auparavant, il y avait déjà des phénomènes de langue, de TP, de ceci, de cela, où les élèves croisaient d'autres élèves d'autres classes. C'était, somme toute, quelque chose d'assez banal. C'est plus important maintenant, mais c'est pas quelque chose d'inconnu. Quatrième élément, donc, et je termine là-dessus, dans le cadre des travaux donc, du comité de suivi qu'on a mis en place, avec les organisations syndicales, avec l'appartement des parents, des élèves, de l'ensemble des acteurs, c'est le premier point qui a été inscrit à l'ordre du jour des débats. C'est-à-dire qu'on a dit, oui, effectivement, il faut qu'on traite ça, il faut qu'on apporte des solutions qui soient opérationnelles, et en même temps, il faut tenir compte de cette évolution, si fait finalement assez naturelle, et comme vous l'avez dit, qui prépare l'avenir.
Je voudrais qu'on on avait un prof de maths en ligne. Je voudrais quand même d'abord qu'on écoute Marianne, parce qu'il n'y a pas que des gens non plus qui sont négatifs ce soir, et c'est important de le souligner. Bonsoir Marianne.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Donc j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport à cette réforme, mais j'aurais essentiellement trois points à vous communiquer. Le premier, c'est donc moi je suis une maman d'un élève de première, donc dans un lycée de Marseille, et pour nous ça se passe très bien dans l'école parce que toute l'équipe pédagogique, les professeurs sont extrêmement rassurants. Donc il y a eu beaucoup de réunions qui ont été réalisées, des réunions avec les parents, les enfants, des réunions qu'avec les parents et des réunions qu'avec les enfants. Et aujourd'hui, les choses avancent avec, on va dire, un corps professoral qui est très rassurant. Et il me semble que c'est quand même aujourd'hui le plus important, c'est d'accompagner les enfants. Et nous, c'est ce qui se passe dans notre lycée.
Très bien.
La deuxième chose, c'est que je trouve que cette réforme, elle a énormément d'avantages, puisqu'elle fait sortir nos enfants des cases dans lesquelles on les mettait avant. Et aujourd'hui, moi, le mien, par exemple, il fait maths physique parce qu'il veut être ingénieur, mais il a aussi sciences économiques, chose qu'il ne pouvait pas avoir avant. Donc, ça lui ouvre un spectre qui n'existait pas auparavant. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que nous, dans l'entreprise, on a beaucoup de changements qui arrivent parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise. On nous demande de nous adapter. C'est aussi le cas aujourd'hui qui est fait dans l'éducation. Et oui, quand il y a des changements, parfois, il y a des incertitudes. Mais ces incertitudes, il faut les accompagner. Il faut pas mettre un climat de stress. Au contraire, il faut rassurer. Et je pense que si on le fait comme nous, on fait aussi dans l'entreprise, oui, il peut y avoir quelques couacs. Mais si on rassure, les choses avancent. Et c'est ce qu'il faut faire parce que nos enfants ont besoin aussi d'avancer dans une nouvelle école. Et aujourd'hui, à mon sens, ça prend ce sens-là. Voilà mon témoignage.
Merci beaucoup, Marianne. Je voudrais ajouter le témoignage de Marie-Noël sur franceinter.fr qui dit, contrairement au témoignage, moi j'ai de très bons retours de la part de ma fille, plaisir d'apprendre, classe différente. Nous avons la chance d'avoir un lycée où les choses sont très bien organisées. Donc pour nous, tout va bien. Sophie Vénétité, vous êtes allergique au changement.
Alors c'est une caricature qui est assez facile.
Mais après, dit, mais qui, ces témoignages sont réels.
Mais que les témoignages sont réels.
C'est
mais
bien de souligner aussi qu'il y a des endroits où ça se passe bien.
Mais bien évidemment, il y a des endroits où ça peut bien se passer. Moi, ce que j'entends quand même, c'est que ce qui se dit, c'est que les collègues ont pu avoir des informations, qu'ils ont pu accompagner les élèves. Mais soyons très clairs, tous, nous souhaitons accompagner les élèves. Enfin, il n'y a pas de professeur qui se dit « moi, j'ai pas envie que cet élève-là réussisse, j'ai pas envie de leur donner les bonnes informations, etc. » On ne va pas caricaturer nos positions. C'est qu'à un moment, quand on a fait nos réunions en début d'année, on n'a pas été en mesure de répondre aux parents d'élèves. Et ça, c'est quand même une des constantes de cette réforme. Et vous parliez du comité de suivi. Lors du dernier comité de suivi, tout le monde a été unanime pour dire qu'il y avait un manque d'informations, alors que paradoxalement, il y avait eu beaucoup de communication. Et c'est tout le paradoxe de cette réforme qui a été très bien vendue en termes de communication. Mais alors sur le terrain, en termes d'informations, on manque encore d'éléments pour rassurer tout le monde.
Allez-y.
Non, mais je crois qu'on peut brancher tous les ventilateurs à angoisse qu'on veut quand on a envie. Quand même, globalement, un, l'information, elle existe, elle circule, elle est accessible à tous, et tout le monde peut la retrouver sur les sites internet quand je passe mon bac pour les jeunes, sur les sites EduSchool pour les professeurs, etc. Donc, l'information, elle existe. Après, effectivement, il y a un temps d'adaptation, mais comme pour toute réforme, je veux dire, c'est une transformation. Il faut assumer le fait qu'elle est importante, il faut effectivement accompagner les élèves, et une fois encore, redonner la priorité absolue aux élèves et à leur épanouissement.
Sincèrement, est-ce que vous savez déjà, grâce au comité de suivi, ce qu'il faut de toute façon modifier assez vite, en fait, parce que visiblement ça coince aux entournures. Est-ce que déjà, après un mois et demi, au moment des vacances de la Toussaint, on sait, là, il faudra l'adapter différemment parce qu'effectivement ça coince.
Il faut travailler rapidement sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le sujet groupe classe et conseil de classe. Ça, il y a un vrai timing qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'il faut aboutir assez vite à des solutions opérationnelles et concrètes pour tout le monde.
Allez, bonsoir Jackie, on vous attend depuis un moment, et vous aussi d'ailleurs, vous attendez depuis un moment, le fameux sujet des spécialités maths, visiblement trop difficile. Vous en savez quelque chose, vous êtes prof de maths, racontez-nous.
Oui, donc je suis prof de maths dans un lycée et j'ai en charge un groupe de spécialités. Donc moi je voulais intervenir sur la disparition des maths du tronc commun en première. Alors il est dit qu'il y a des maths dans le programme d'enseignement scientifique, mais il y en a tellement peu qu'on peut dire que c'est faux, voire même mensonger. Alors on a une grosse majorité d'élèves de seconde qui a décidé de garder les maths en première pour ne pas prendre de risques pour Parcoursup, pour leur avenir. Et on pense que c'est un bon choix, sauf que le programme de première est beaucoup trop ambitieux et totalement inadapté à la majorité des élèves.
Ça veut dire que c'est beaucoup plus dur que première ES, par exemple, anciennement?
Ah oui, carrément. Ouais. Oui, donc ça n'a rien à voir. Donc il y a toute une partie géométrie, sans rentrer dans les détails, qui n'existait pas en ES, qui est maintenant là. Et je pourrais même insister en disant que c'est même encore plus compliqué, encore plus difficile que le programme de première S. Donc la majorité des élèves que j'ai en face de moi sont déjà bien perdus et sont déjà en difficulté. Et gérer l'hétérogénéité dans un groupe de 32, c'est loin d'être évident. Donc, c'est une grosse erreur d'avoir fait disparaître les maths du tronc commun.
Merci.
Il aurait fallu en garder un petit morceau accessible à tout le monde.
Merci pour votre témoignage, Jackie. Je voudrais en ajouter un autre, celui de Gabriel, qui dit « Je suis élève de première dans les Yvelines. Après plus d'un mois de cours, j'ai dû négocier avec ma direction pour changer de spécialité. Les maths étaient trop compliquées, malgré le fait que mon niveau l'année dernière était plutôt bon. Je suis maintenant donc avec des élèves de SES et j'ai donc 6 semaines de retard. » Il y a beaucoup de mails et d'appels au sujet... Édouard Geffray, de ce programme de maths qui est très très élevé, visiblement. Beaucoup plus en tout cas qu'en première ES.
Alors, il y a eu tout un travail. Les programmes, comme vous le savez, ne sortent pas du cerveau d'une seule personne. Il y a eu tout un travail par le Conseil supérieur des programmes qui a abouti effectivement dans toutes les disciplines, mais notamment en mathématiques. Donc, moi j'entends tout ce qui est dit là. Et donc, il faudra qu'on regarde... effectivement ce qu'il en est pour éventuellement apporter des solutions.
Je vois que l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public a écrit fin septembre une lettre ouverte au ministre de l'Éducation disant que dès les 2 premières semaines, certains veulent abandonner cette spécialité avant la terminale. Donc visiblement, il y a un problème avec les maths, non? Il n'y a pas de problème avec les maths ou il y a un problème avec les maths?
Je voudrais juste qu'on ait une approche un tout petit peu plus complète et surtout, j'allais dire, quantifiable et objective sur les choses qui éventuellement posent problème pour pouvoir les traiter. Mais si...
Est-ce qu'on s'est dit, pour les gens, les élèves qui choisiront une spécialité maths, il va falloir qu'on élève le niveau? Est-ce que c'est ce qui s'est dit au moment où...
Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une spécialité. Et que donc une spécialité, puisque comme vous le savez, il y a un enseignement scientifique qui est lui dans le tronc commun, mais là on est sur une spécialité. Et donc, pour une spécialité, il y a un certain niveau d'exigence qui est le corollaire du fait que c'est une spécialité et qui est quand même une spécialité lourde, puisque je vous rappelle que si elle est poursuivie en terminale, c'est ensuite 6 heures en terminale. Donc, effectivement, c'est une spécialité qui, comme toutes les autres, d'ailleurs, chacune
de
son domaine est exigeante.
Donc, c'est le bac C, en fait, de quand nous, on était jeunes, grosso modo. C'est le bac C.
Je ne saurais pas vous faire le comparatif des programmes du bac C et du bac d'aujourd'hui, mais il faudrait que je regarde attentivement.
Sophie Vénétité.
Oui, 2 choses. D'abord, quand même, l'expression ventilateur à angoisse ne me semble pas rendre justice à tous les efforts qui ont été faits par les collègues sur le terrain depuis le début de l'année. Pour revenir sur les programmes. Effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que le programme de mathématiques, mais aussi d'autres programmes, se heurtent aujourd'hui à des difficultés en termes de transmission aux élèves en raison de leur lourdeur, qui paraît aujourd'hui assez inappropriée par rapport à ce qu'on veut faire avec nos élèves. Il ne s'agit pas de dire on renonce à avoir une exigence avec les élèves, il s'agit de se donner les moyens d'avoir cette exigence. Parce qu'aujourd'hui, on a des élèves en difficulté effectivement avec le programme de maths, on laisse des élèves sur le côté, et ça, ça ne nous va pas, ça nous fait mal au cœur aussi de laisser ces élèves sur le côté, on cherche des solutions. Alors on va se dire comment est-ce qu'on peut personnaliser, sauf qu'on est 35 par classe, que la classe a disparu, et que les petits temps de travail en petits groupes ont aussi disparu. Donc ce qu'il nous faut, c'est soit avoir cette réflexion sur comment, quels sont les moyens pour accompagner les élèves face à ces nouveaux programmes, ou alors réfléchir à des allègements de programmes. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, ça, pourrait être facilement mis en œuvre. En tout cas, nous, on vous interroge aussi là-dessus, parce que il y a des choses qui pourraient faciliter le travail aux élèves et aux professeurs, sachant que vous avez parlé de la conception des programmes l'année dernière. Moi, je rappelle quand même qu'on avait déposé un certain nombre d'amendements pour alléger les programmes et qu'aucun n'a été retenu.
J'ai une toute dernière question. Elle est pour vous deux. Elle est de Paul. Il a 75 ans et il dit « Je désire passer le bac en candidat libre. Du coup, pour moi, ça se passe comment ?» Ce sera la conclusion sera la réponse à la question de Paul.
Il peut tout à fait s'inscrire au baccalauréat en candidat libre. Et il peut ensuite.
Mais comment il fait pour le contrôle continu, notre ami Paul ?
Alors, il y a tout un système d'abord, s'il a fait d'autres choses avant, il pourra valider un certain nombre d'épreuves. Et ensuite, il y a tout un système qui lui permet effectivement de passer soit en contrôle terminal, soit dans un autre cadre. Tout ça est parfaitement précisé en ligne. Et s'il a besoin, il peut appeler soit son rectorat, soit même la DGESCO. Vous pouvez même le passer en rentrée. Je répondrai très volontiers.
Allez, ben Paul, si vous êtes encore là, vous aurez le plaisir de discuter avec Edouard Geffray. Merci beaucoup, merci à tous, merci comme d'habitude à vos très nombreux appels.